Matin, nous voulons effectivement ensemble rendre un culte à celui qui a dit « Sachez ceci, le royaume de Dieu est proche. » Le royaume des cieux est proche. Quelle espérance, mes amis. Quelle espérance pour ceux qui sont en route, dans l'attente. Christ revient bientôt. Quelle espérance pour ceux qui, ce matin peut-être, sont chargés et fatigués, l'Esprit de Dieu est là, qui nous réconforte. Quelle espérance, enfin, pour ceux qui sont peut-être sur des chemins difficiles. Le royaume de Dieu est proche. Il ne s'agit pas de baisser les bras. Pas maintenant, pas encore. Il est vrai, cependant, que les signes de ce royaume qui vient sont parfois si tenu, si fragile, si insignifiant, un peu comme ce grain de moutarde dans la parabole. Vous savez, en Matthieu 13, Jésus nous dit « Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, alors elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. » Extraordinaire cette parabole. Le plus petit, le plus faible, le plus insignifiant devient, j'allais dire d'un coup, non, il faut un peu de patience, mais devient à coup sûr le plus grand, le plus accueillant, pour que piaille la vie, pour que la vie s'y installe et se reproduise. Graines de moutarde, promesse de vie en abondance. Alors c'est vrai que parfois, nos vies sont remplies de ces évidences de la présence de Dieu. Dieu est tellement présent que c'est carrément comme si nous avions devant nos yeux déjà la plante de moutarde bien assez grande, bien assez haute, et elle fait notre joie, cette plante de moutarde. Mais qu'en est-il quand nous faisons face au silence de Dieu ? Quand nous n'entendons rien, quand nous ne voyons rien, ou peut-être à peine une petite graine de moutarde, alors que nous prions, alors que nous passons notre temps à rechercher, à demander, et que rien ne vient, que faire, que penser? Ce matin, Sylvain Wenger a à cœur de nous parler un petit peu plus longuement de ces silences de Dieu. Mais en ce début du culte, j'aimerais simplement vous inviter à ouvrir vos cœurs et à accueillir cette espérance. Le royaume de Dieu est proche, la graine de moutarde se lève, il nous faut croire, malgré tout. Je vous invite à prier. Béni sois-tu, Père Céleste, toi qui nous accueilles dans ta maison, donne-nous d'ouvrir nos cœurs à ta présence ce matin. Béni sois-tu, Père, car tu es celui qui nous appelle à la vie, à une vie qui porte du fruit en abondance. Donne-nous de nous mettre en route avec foi. Béni sois-tu, Père, tu es celui qui pourvoit tous nos besoins. Donne-nous de savoir goûter à ton repos. Béni sois-tu, Père, tu es celui qui pardonne et nous relève quand nous trébuchons. Donne-nous de savoir nous repentir. Merci pour tous ceux qui sont dans la joie ce matin. Merci de prendre soin de tous ceux qui sont fatigués ce matin. Merci pour ta grâce pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des raisons de louer notre Dieu, des raisons d'aimer notre Dieu, et c'est ce que nous voulons faire avec la louange. Merci à Xavier et à tout son groupe.
Salut du haut des cieux. Seigneur Jésus, c'est tellement bon de te retrouver, c'est tellement bon de s'arrêter, c'est tellement bon de te chanter, c'est tellement bon de tout mettre de côté, tout envoyer balader, puis de te retrouver. Je suis tellement bien quand tu es là, je suis tellement bien quand je m'arrête, je suis tellement bien quand tu me permets d'oublier tout ce qui me préoccupe, tout ce qui me stresse, tout ce qui me charge. Seigneur Jésus, tu es là. C'est merveilleux. Et puis, on veut dire, nous tous, ensemble ce matin, mais règne sur nos cœurs, mais transforme nos vies. Sois là chaque jour comme tu es là en ces instants. Sois là à chaque instant à nos côtés. Tu es notre raison de vivre, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom.
Ta fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel. Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, ô mon âme, bénis l'Éternel, ô mon âme.
Merci Olivier d'avoir suivi avec les accords décalés d'un demi-ton que j'ai moi-même pas réussi à continuer. Le Seigneur est bon et puis heureusement qu'on n'est pas tout seul et puis... C'est chouette de pouvoir compter les uns sur les autres. Tu vois, comme il disait Paul Robert l'autre jour, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Sans Olivier, je ne serais pas arrivé plus loin. Et puis, sans celui ou celle qui est à côté de toi ce matin, tu ne vas pas beaucoup plus loin non plus. Moi, je propose que tu lui fasses la bise à celui qui est à côté de toi et puis qu'on se souhaite la bienvenue parce que le Seigneur nous a mis ensemble, pas par hasard. T'es pas obligé de l'embrasser, mais serre-lui au moins la pince.
Hey, merci.
Hein? Je sais pas ce que j'ai fait. Hein? Lui, il a suivi, mais je sais pas ce que j'ai fait. Hein? Non, tu crois ?
Vous croyez qu'on va réussir à le refaire en mi? On le reprend une fois, mais c'est toi qui le lead, parce que je suis trop fatigué. J'ai besoin de déposer mes fardeaux.
Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité. Ne déplaira pas les circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel.
Est-ce qu'on a des enfants avec nous qui doivent descendre dans leur groupe ou pas ce matin? Oui, on va prier pour les enfants et puis on va vous laisser descendre. Seigneur Jésus, merci pour nos enfants, parce que je crois que les enfants que tu places dans cette église, ce n'est pas seulement les enfants de leurs parents, c'est aussi nos enfants à nous tous. Et Seigneur Jésus, on veut tous ensemble les bénir en ton nom, et puis on réclame leur cœur pour toi. Nous prions de les toucher chacun dans leur cœur, comme tu sais tellement le faire avec les petits-enfants. Merci parce que ta main est sur eux. Bénis leur moniteur aussi, que ta parole soit connue. Amen. Voilà, à tout à l'heure, les enfants. On se retrouve au café. Et puis les grands, on va chanter encore un ou deux chants.
Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, c'est le nom du salut.
Nous pleurons avec toi, à lui l'honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits.
Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout.
Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. La gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses.
Amen. Vous pouvez reprendre place. Merci.
Je t'aimerai et je tiendrai par la foi. Les paroles qui résonnent dans nos chants aujourd'hui, mais qui résonnent aussi dans la parole de Dieu, dans la Bible, tout au long de ces livres, et qui résonne aussi au travers de ce psaume 44 que nous voulons vous lire maintenant et qui sera le support de la prédication de Sylvain tout à l'heure. Psaume 44, au chef de chœur, poème des fils de Corée. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu as accomplie de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as dépossédé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour leur permettre de s'étendre. Car ce n'est pas avec leurs épées qu'ils ont pris possession du pays, ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu leur étais favorable. C'est toi qui es mon roi, ô Dieu. Ordonne le salut de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos adversaires. Par ton nom, nous écraserons ceux qui se lèvent contre nous. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous sauves de nos adversaires et qui couvres de honte ceux qui nous haïssent. Nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom.
Cependant, tu nous as rejetés, Tu nous as couverts de confusion, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'adversaire, et ceux qui nous haïssent nous dépouillent à leur profit. Tu nous livres comme du petit bétail à dévorer, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu n'en augmentes pas le prix. Tu fais de nous un objet de déshonneur pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous la fable des nations, on hoche la tête sur nous parmi les peuples. Ma confusion est toujours devant moi, et la honte me couvre le visage. À la voix de celui qui déshonore et bafoue, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive, et nous ne t'avions pas oublié, nous n'avions pas violé ton alliance. Notre cœur ne s'est pas détourné, nos pas ne se sont pas éloignés de ton sentier. Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals, et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, si nous avions étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas découvert, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis de boucherie. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous rejette pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bienveillance.
Je vous invite à la prière. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est comme une graine jetée dans le champ de notre cœur. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous donner un cœur labouré, une terre qui sait accueillir cette parole, pas toujours évidente à entendre. Il nous faut aussi pouvoir la méditer ensemble pour mieux se l'approprier, mais que ces paroles jetées puissent fructifier, germer, pousser, grandir et porter de la vie. Merci Seigneur de te demander par ton Esprit Saint de faire ce travail en nos cœurs. Amen.
Bonjour. Lorsque Roger m'a demandé si je voulais faire une prédication, il m'a demandé il y a quelques semaines, j'ai tout de suite dit oui, sans réfléchir vraiment au sujet sur lequel je pourrais parler. Et il m'a laissé libre par rapport au choix du thème et m'a proposé de suivre, par exemple, le modèle de certaines prédications précédentes, celles où on choisissait un personnage un peu secondaire dans la Bible et on développe une prédication sur un personnage. Et j'ai cherché pendant un moment, mais je n'ai pas finalement trouvé de personnage qui m'interpellait au point de vouloir faire une prédication entière dessus. Et donc, après avoir cherché un moment, je me suis tourné vers une thématique qui m'interpelle depuis longtemps, et surtout dernièrement, c'est les traversées de désert sur le chemin de la foi. Et ces traversées de désert sont une réalité de la foi. À des collines de joie et d'espoir succèdent parfois des creux de tristesse ou d'absence. Et les raisons peuvent être multiples. Parfois, ce sont des moments de doute, où on ne sait plus exactement ce qu'on pense. Parfois, la fatigue nous conduit dans des creux de la vie. Parfois, on a l'impression d'être confronté au silence de Dieu ou une impression d'absence de manifestation divine dans notre vie. Et ça regroupe plusieurs thématiques. Et moi, je souhaite aujourd'hui parler justement de ce dernier point, les moments où on attend une réponse de Dieu, un geste, un signe, une réponse, un exaucement de prière, et que pour nous, ces moments durent trop longtemps. Si une fois j'ai le temps de refaire une prédication sur ces traversées déserts, je ferai peut-être sur le doute dans le chemin de la foi. Et comme base d'étude de ce thème, aujourd'hui j'ai choisi le psaume 44 que nous avons déjà lu. Avant de se lancer dans l'étude de ce texte, j'aimerais juste préciser que je ne vais pas m'étendre sur les raisons qui causent ces moments de silence ou d'absence, ni justifier pourquoi on pourrait penser que Dieu se tient éloigné ou pourquoi on pourrait ne pas entendre de réponse à nos prières dans les délais que l'on aimerait. Le but aujourd'hui, c'est plutôt de s'aider de ce texte pour trouver des pistes d'action, ce qu'on peut faire nous, dans ces moments de silence qui arriveront une fois ou l'autre dans la vie. Je vais commencer par une proposition de structure pour ce texte, pour s'y retrouver un peu mieux, pour ceux qui ont leur Bible. J'ai découpé, par exemple, les versets 2 à 4, les premiers versets. On voit que le psalmiste se rappelle des œuvres de Dieu pour le peuple d'Israël, pour les victoires qui proviennent de l'action de Dieu. Les quelques versets suivants, les versets 5 à 9, constituent une prière de louange remplie de confiance dans la puissance de Dieu comme délivrance. On voit que le psalmiste dit « Ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. » Et après ce moment de confiance, on voit une pause qui est indiquée dans le texte et le ton change. Les versets 10 à 17 sont remplis plutôt d'un sentiment d'abandon. On avait quelques versets avant qui étaient remplis de confiance et on arrive sur des versets qui parlent d'abandon, qui semblent même indiquer que Dieu aurait repoussé lui-même le peuple d'Israël, voire même être le responsable de ce temps de misère. Les quelques versets suivants, les versets 18 à 23, le psalmiste signale à Dieu que cet abandon n'est pas la cause d'idolâtrie ou d'un détournement de Dieu au profit d'autres dieux étrangers, mais que le peuple est resté fidèle à Dieu. Je relis le verset 21. « Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur ?» Et enfin, ce psaume finit avec les versets 24 à 27, où on a un appel à l'aide, un appel à une réponse rapide de la part de Dieu. En comparant avec d'autres psaumes, j'ai remarqué que ce psaume-là avait une structure un petit peu inversée, dans le sens où beaucoup de psaumes sont des appels au secours, à une intervention divine, où souvent dans les autres psaumes, le psaume commence par un cri de désespoir et de plainte, mais le psaume se conclut souvent par des versets de confiance en l'Éternel, en sa bonté, en sa fidélité. Si on prend par exemple les deux psaumes précédents, le psaume 42 et le psaume 43, on a un verset qui revient comme une conclusion pour chacun de ces psaumes. Après la plainte, les psaumes se terminent par « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et beaucoup de ces psaumes qui commencent par une plainte finissent par une reconnaissance de qui est Dieu et une reconnaissance de la confiance qu'on peut avoir en Dieu. Mais dans le psaume 44, celui-ci a la particularité d'avoir une structure un peu inversée. Il commence par un rappel de tout ce que Dieu a fait, de la confiance qu'il lui a accordée, puis d'un sentiment d'abandon et de prière de détresse. On pourrait alors se demander si l'auteur a bien compris ce qu'il dit au début, quand il parle de cette confiance qui a l'air absolue, et qu'elle se transforme tout d'un coup en une plainte, un désespoir. Et justement, dans les pistes que je vais vous proposer aujourd'hui, on va voir est-ce qu'il y a vraiment une opposition entre le début rempli de confiance et la fin teintée de désespoir. Est-ce que, en observant pas ces versets de plus près, on pourrait voir que l'auteur a compris certaines choses qui pourraient nous aider dans des situations similaires? Et donc, en nous aidant du texte, on va tenter de répondre à la question « Comment agir dans un temps de silence? Que faire dans l'absence de réponse de la part de Dieu ?» Je vais vous proposer quatre pistes en s'inspirant du texte. La première piste, ça va être tirée du verset 3. Je relis « De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. » Le psalmiste, ici, fait le choix de se rappeler ce que Dieu a fait pour son peuple. Il reconnaît au verset juste après, au verset 4, que ce n'est pas la force humaine, mais le bras divin qui a conduit au succès par le passé. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Donc le premier point qui me semble presque le plus important, c'est dans ces moments de silence où on attend un signe, une réponse, une parole de la part de Dieu, c'est se rappeler, se souvenir de tout ce qui a déjà été fait. Le psalmiste, dans ce psaume, connaît l'amour de Dieu et il se confie en Dieu dans les premiers versets. Et dans cette situation de besoin et de détresse, il commence par faire le choix volontaire et même rationnel de se rappeler ces choses. C'est des souvenirs qui permettent, dans les moments de creux, de se souvenir des temps forts qu'il a passés avec Dieu. Dans l'Ecclésiaste, on peut lire qu'on ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ce souvenir, ce n'est pas forcément quelque chose de facile ou de naturel dans notre vie, et c'est parfois plutôt un effort ou un choix volontaire qu'on doit faire pour se rappeler, pour lutter contre notre mémoire qui oublie un petit peu ce qui s'est passé. Et cet effort de se rappeler ce que Dieu a déjà fait permet de progresser dans ce temps de silence. Et on pourrait se demander, se souvenir, mais se souvenir de quoi ? Alors dans cette même piste, j'ai plusieurs points qui me semblent importants, qu'on retrouve aussi dans ce psaume. La première, c'est se souvenir que Dieu est bon. La bonté de Dieu revient partout dans la Bible. J'ai trouvé un verset qui revient au mot près dans les psaumes 36, 57, 108, et qui est exprimé différemment dans d'autres textes, qui dit « Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. » On voit que c'est un thème qui est récurrent dans la Bible, la bonté qui revient, les gens qui se rappellent de la bonté de Dieu. Et c'est quelque chose qui est bon de se rappeler pendant ces moments difficiles. En plus de la bonté, on peut se rappeler de l'amour de Dieu pour nous. Paul écrit dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Beaucoup de versets parlent de l'amour, beaucoup de versets sont des promesses auxquelles on peut s'accrocher, qui nous parlent de cet amour de Dieu qui ne dépendait pas de ce qu'on a fait, puisque c'est lorsque nous étions encore des pécheurs que Christ est mort pour nous. Dieu est bon, Dieu nous aime, mais en plus de cela, Dieu est tout-puissant et souverain. Et c'est aussi pour ça qu'on peut lui faire confiance. Dieu sait ce qu'il fait, et il le fait bien mieux que tous les projets que nous pourrions établir, et souvent à un moment plus opportun que ce qu'on pourrait penser. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On peut voir que chaque fois qu'on est dans des attentes, on est confronté entre ce qui est au fond de nous et ce que Dieu aurait pu prévoir pour nous. Se rappeler de la souveraineté de Dieu permet justement de se rappeler que, au final, c'est les projets de Dieu qui vont s'accomplir ou qui seront mieux pour nous. On peut aussi se souvenir, comme dans le psaume, des réponses passées à des prières ou à ce que Dieu a déjà fait dans notre vie, notre expérience personnelle. Et comme le psalmiste, se rappeler de cette action de Dieu dans notre vie, de ces temps forts passés avec lui, peut nous permettre de patienter en attendant une réponse de sa part. Dieu nous a aussi donné un autre outil qui est très pratique, c'est toutes les promesses qui sont contenues dans la Bible. Réussir à s'accrocher à certains versets clés pendant ces moments de silence permet de pouvoir faire confiance à certaines promesses dans la Bible. Jésus dit, par exemple, dans Matthieu 7, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Jésus nous fait cette promesse que Dieu peut répondre à nos prières et qu'il le fait en nous donnant ce qui est bon pour nous, pas en nous donnant un serpent ou une pierre, mais en choisissant ce qui est vraiment bon pour nous, comme un père donnerait du pain à son fils qui aurait faim. Vous connaissez aussi probablement tous le verset dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand on se rappelle de cette souveraineté de Dieu, on peut justement avoir confiance que Dieu fait toutes choses bonnes pour nous, qu'il a un regard extérieur plus grand, plus large sur notre vie et sur ce qui se passe. Et ça m'amène au dernier point sur lequel on peut se souvenir, c'est que on n'a pas le même temps que Dieu. Dieu n'a même pas de temps, on pourrait dire. Il a créé le temps comme une partie de ce monde. Et on peut lire à plusieurs reprises dans la Bible une expression que vous connaissez sûrement, que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Dans les psaumes, au psaume 90, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Ce n'est pas seulement une expression poétique qui revient dans les psaumes, Pierre le rappelle aussi dans sa deuxième épître. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et en tant qu'humain, on est coincé entre l'écoulement du temps, sur lequel on ne peut pas agir, et notre impatience. Et nous n'avons pas la même vue d'ensemble que Dieu sur notre vie, ni la même sagesse. Et dans ces cas-là, il est bon de se rappeler, se souvenir de Dieu qui agit dans sa souveraineté au bon moment, même si ce n'est pas dans les délais qu'on aurait souhaité. Donc ça, c'est la première piste que je voulais vous exposer ce matin. C'était se souvenir de ce que Dieu a fait, se souvenir de ses promesses, se souvenir de qui il est pour nous, comme le psalmiste le fait au début du psaume 44. Après les quelques premiers versets dans le psaume 44, où l'auteur se rappelle de ce que Dieu a fait, il continue en exprimant sa confiance en Dieu, une sorte de prière de louange, de reconnaissance de qui est Dieu, une expression de confiance envers Dieu. Et justement, la confiance, on pourrait croire que c'est juste une construction émotionnelle qui dépend de notre expérience et des souvenirs dont on se rappelle, mais c'est aussi un choix. La confiance, c'est un choix qu'on peut faire en fonction de ce qu'on a déjà appris, en fonction effectivement de nos souvenirs. Mais par exemple, je vais prendre l'exemple d'Abraham dans la Bible, qui a reçu plusieurs promesses de Dieu. Il a reçu une promesse d'un lieu donné comme héritage et d'une postérité. Et on peut lire dans Romains 4 que Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham a attendu beaucoup d'années dans ce silence. Il a eu une promesse à un moment, mais après il n'a pas eu un rappel de Dieu chaque jour qui lui disait « c'est bon, je vais te conduire dans la terre promise ». Mais il a réussi à s'accrocher à cette promesse, sûrement plus longtemps que ce qu'on aurait réussi à faire. Il a attendu une descendance pendant des dizaines d'années. Et finalement, c'est par la foi qu'il a réussi à tenir, c'est en faisant un choix de s'accrocher aux promesses de Dieu. Et bien sûr, je ne dis pas que c'est facile à faire. Dans les moments d'absence où on a l'impression que Dieu ne répond pas, c'est très difficile. Mais je pense que j'avais tort, il y a quelques années, de penser que c'est l'espoir qui nous donne la persévérance. La Bible nous montre à plusieurs reprises que c'est l'inverse. C'est la persévérance qui nous accompagne vers l'espérance. Il y a plusieurs versets qui reprenaient ça. J'ai choisi un verset dans Hébreux 10, au verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et bien sûr, en s'éloignant un petit peu de notre texte, en regardant le message global de la Bible, on peut se rappeler par exemple qu'une des plus grandes promesses qu'on a reçues, c'est que nous avons reçu comme héritage une place auprès de Dieu grâce au sacrifice de Jésus. On est devenu co-héritier de ce royaume et c'est une promesse qui vaut beaucoup plus que ce qu'on pourrait espérer sur cette terre. C'est une promesse large à laquelle on pourra tout le temps s'accrocher. Donc les deux premières pistes que je vous ai données, la première c'était se souvenir, la deuxième c'était avoir confiance dans les promesses de Dieu, faire ce choix de confiance. Je vais revenir au début du psaume 44, il y avait un verset que je trouvais très intéressant. C'est l'expression au verset 2, « Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu accomplis de leur temps, au jour d'autrefois. » Et pour moi, c'est une piste essentielle à la persévérance. Dans ce psaume, on a une sorte de notion de transmission de savoir, de souvenir entre les générations. Et cet aspect d'encouragement nous rend plus forts. Comme l'a dit Xavier au début, c'est ensemble qu'on peut aller plus loin, ensemble qu'on se fortifie. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. On a cette notion de transmission qui revient à toutes, presque dans tous les livres de la Bible. Je vais juste citer Jésus qui commande à ses disciples de former d'autres disciples, de transmettre ce qu'ils ont reçu, cette espérance, ces promesses. Paul a aussi encouragé, par exemple, Timothée à transmettre tout ce qu'il a reçu et de le transmettre à d'autres personnes. Et nous, nous avons chacun reçu des cadeaux et des promesses qui valent la peine d'être transmises aux autres. Et c'est sur ces promesses qu'on peut parfois s'accrocher, sur les réponses de Dieu dans la vie des autres, sur la fidélité de Dieu qu'on peut voir au travers de la vie des autres. Je vais lire un passage un peu plus long qui exprime exactement cette transmission entre les personnes dans Psaume 78, les versets 3 à 7. Ce que nous avons attendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à nos enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent aussi à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, qu'ils observent ses commandements. » Et c'est là qu'on peut se dire, il faut non seulement transmettre, mais c'est aussi un choix de savoir recevoir des encouragements de la part des autres. Par exemple, après que Jésus soit ressuscité, dans le Nouveau Testament, certains disciples l'ont vu, certains disciples sont allés raconter aux autres que Jésus est ressuscité, mais Thomas n'a pas voulu croire avant d'avoir vu le Seigneur, malgré les encouragements ou les témoignages des autres. Et Jésus lui dit à la fin, « Heureux celui qui a cru sans avoir vu. » Et parfois, c'est vraiment par choix qu'on peut avoir confiance et être encouragé par les témoignages des autres, par les réponses de Dieu dans la vie des autres. Enfin, une dernière piste, très importante dans ce psaume 44, c'est par rapport à la fin du psaume, toute la fin que je n'aimerais pas négliger, où le psalmiste se plaint à Dieu, où il ne comprend pas l'absence. Et pour moi, c'est une piste importante que dans ces moments de silence de foi, dans les moments où on n'entend plus Dieu, on ne sent plus forcément sa présence, qu'on ose, comme le psalmiste, crier à Dieu, exprimer nos besoins, nos attentes, notre impatience. Et nous devons savoir que des temps de silence sont parfois normaux dans un parcours de foi, mais ce n'est pas quelque chose à nier, mais plutôt qui pourra nous permettre de progresser et d'apprendre. C'est un silence souvent formateur pour notre patience, pour notre confiance en Dieu, et qui parfois nous aide à chercher mieux la volonté de Dieu plutôt que de suivre nos propres projets. Donc, dans ces moments de silence, oser crier à Dieu, oser exprimer notre besoin, notre impatience, en tout cas garder ce contact avec Dieu. Crier à Dieu n'est pas forcément ne plus avoir confiance. Le psalmiste, dans ce psaume, a l'air d'avoir confiance dans tous les premiers versets. Il rappelle la confiance qu'il a en Dieu, mais il a quand même besoin de crier à Dieu, d'exprimer ses attentes. Et donc, avant de conclure, j'aimerais raconter une petite histoire que j'ai intitulée « La fidélité de Dieu et l'impatience de Sylvain ». Donc, c'est un petit témoignage personnel. Durant l'été 2014, j'ai obtenu un emploi à Mérin, comme vous le savez sûrement, et je me suis mis à la recherche d'un appartement dans le canton Genevois qui puisse me convenir. Et j'ai reçu rapidement une proposition de chambre d'étudiant qui m'a dépanné pendant plusieurs mois. Mais ce n'était pas vraiment chez moi. Et donc j'ai continué à visiter de nombreux appartements, à déposer des dossiers dans les régies. Vous savez sûrement qu'à Genève, ce n'est pas forcément facile de trouver un appartement. Et donc, je n'ai pas eu de réponse positive. Et tout naturellement, on pourrait dire dans ma bêtise humaine, j'ai commencé à m'impatienter envers Dieu. On pourrait dire que c'était essentiellement au printemps 2015. Et après moins d'un an de recherche, même pas un an de patience, j'étais un petit peu découragé. Et pour me rappeler à quel point j'ai peut-être été ridicule de m'impatienter autant et de ne pas faire confiance à Dieu, Dieu m'a répondu pas, je sais pas comment dire, on va dire qu'il a mis la dose pour que je comprenne vraiment que ça aurait été bien de faire confiance. Et donc le 3 septembre de cette année, le jour de mon anniversaire, on me téléphone et on me demande si je cherche toujours un appartement. Il s'avère que c'était le meilleur appartement que j'aurais pu avoir par rapport à mon budget, une taille très suffisante, confortable, un quartier calme et pas trop loin de mon lieu de travail ou de l'église. Pour accentuer un petit peu les coïncidences, c'était non seulement le jour de mon anniversaire, mais la date d'entrée dans l'appartement était à la veille de mes vacances du mois d'octobre, ce qui me laissait une semaine pour déménager. La même route que où loge ma sœur qui vient d'emménager à Genève, le même immeuble qu'un ami avec qui j'ai un groupe de musique. Donc, trop de coïncidences, mais un sujet de joie. Et c'est seulement après coup qu'on se rend compte de justement cette impatience qu'on avait, alors que finalement, ce temps d'attente m'a permis d'avoir assez d'économies pour les démarches administratives, pour me loger, m'a permis de prendre du temps aussi dans un autre logement. Mais c'est aussi pour vous encourager que souvent, quand on est en plein milieu de cette attente, de cette absence, de cette incompréhension, on ne se rend pas compte que c'est souvent pour notre bien. Je ne dis pas qu'on aura toujours une réponse à nos prières telle qu'on l'attend, mais en général, ça sera mieux que ce qu'on aurait pu espérer. Je vais faire juste une petite synthèse des quatre pistes que je vous ai données. Que faire lorsqu'on n'entend plus Dieu, quand on ne sent plus sa présence, lorsqu'on traverse un temps de silence, un temps où on attend une réponse à une prière, ou simplement un geste, une parole? Le premier, c'était se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, se souvenir des promesses qu'il a écrites dans la Bible, toutes les choses auxquelles on peut s'accrocher. La deuxième piste, c'était d'avoir confiance en ses promesses, avoir confiance en son amour, sa bonté et sa souveraineté. La troisième piste, être encouragé par les autres ou encourager les autres quand ils sont dans des temps où ils attendent, où ils sont peut-être plus loin de Dieu. Être fortifié par l'action de Dieu dans la vie des autres. Et le dernier point, c'est, malgré tout ça, oser crier à Dieu, oser se confier en lui, dire ses besoins, ne pas avoir peur, parfois même d'être énervé contre Dieu, mais de garder cette relation avec Dieu. Et par rapport à ces pistes, je vous invite maintenant à un moment de prière, essentiellement pour pouvoir nous rappeler aussi de tout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie, de ce qu'il a fait peut-être dans la vie des autres. Mais c'est une bonne habitude à prendre, je pense, de se souvenir au lieu d'oublier, de pouvoir avoir des éléments dans notre vie sur lesquels on peut se baser pour avoir confiance dans les moments où peut-être on va un petit peu moins bien. Donc je vous invite à un temps de prière. Sentez-vous libre de prier dans votre cœur ou à haute voix, de remercier Dieu ou même de crier à Dieu si vous avez des attentes, des besoins, et de pouvoir le faire dans la paix et dans la confiance. Je vais commencer. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta patience envers nous. Merci parce que tu es bon, parce que tu nous aimes et que tu as des plans qui sont bons pour nous. Et je te prie de nous excuser quand on est impatient envers toi, quand on ne se rend pas compte que tu veux le meilleur pour nous et qu'on a l'impression que nos projets seraient les meilleurs pour nous. Aide-nous à nous confier en toi et à pouvoir être soumis à ta souveraineté, en sachant que c'est par amour que tu agis envers nous.
Notre Père, nous te remercions parce que tu prends soin de nous. C'est vrai que certainement tous cette expérience que tu sais.
Et Seigneur, nous te bénissons pour cette nuée de témoins de la foi qui a jalonné l'histoire de l'humanité. Nous pensons non seulement aux auteurs bibliques, aux auteurs des évangiles, mais aussi à tous ces croyants de l'Église qui, tout au long des siècles, ont persévéré et ont tenu bon. Te remercions de pouvoir nous appuyer sur ce qu'ils ont vécu pour croire en toi qui est ce Dieu fidèle, ce Dieu qui est vérité, ce Dieu qui pourvoit comme il le dit et ce Dieu qui nous protège. Seigneur, nous te prions et t'apportons tous ceux qui, dans l'Église, souffrent, passe par un temps de désert, passe par un temps où ils ne t'entendent pas, où ils ne te voient pas, alors qu'ils prient, alors qu'ils demandent. Nous te demandons simplement, Seigneur, d'être des témoins à côté d'eux, de pouvoir marcher avec eux tout simplement et tenir bon ensemble dans cette foi que tu réponds à tes promesses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. J'aimerais encore effectivement remercier Sylvain, non seulement pour ce qu'il nous a apporté, mais aussi parce qu'il a osé relever le défi de la prédication. C'était la première fois qu'il apportait un message, et c'est pas rien. Merci pour cet exercice. Merci d'avoir été d'accord de relever le défi. Et si vous avez à cœur de l'encourager, n'hésitez pas à la fin du culte de lui dire un petit mot. C'est toujours le bienvenu. Voilà, je vous invite à poursuivre pour entrer dans ce temps de scène. D'abord en chantant ensemble ce chant qui nous rappelle que tu es notre ancre, notre voile de 794. Pour nous introduire à ce temps de scène, j'aimerais vous faire quelques lectures. Tout d'abord en Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, qui nous dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Notre Sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Tite, chapitre 2. Et enfin Apocalypse, chapitre 5. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dieu saint et juste, Dieu saint et bon, avec ce pain et ce vin, nous t'apportons ce qui fait notre quotidien. Nous t'apportons nos larmes, nos tristesses, nos cris de détresse, mais aussi nos joies, nos espérances. Nous voulons nous approcher de ta table en oubliant nos amertumes, nos animosités, en abandonnant nos querelles et nos révoltes. Nous t'en prions, sanctifie-nous par cette communion. Donne-nous un cœur pur, afin que nous puissions te voir. Donne-nous un cœur humble, afin que nous puissions t'entendre. Donne-nous un cœur aimant, afin que nous puissions te servir. Donne-nous un cœur croyant, afin que nous puissions vivre de ta vie. Accueille-nous maintenant à ta table et dans la lumière de ta résurrection. Transfigure nos vies et donne-nous ta paix.
Je lis dans Matthieu 26, versets 26 à 29. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de bénédiction, il la partagea en morceaux, puis il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Nous prions. Merci Père pour ce pain, nourriture des petits et des humbles, pain de l'ordinaire qui fait vivre au quotidien. À travers celui-ci, tu veux nous rappeler que tu es toujours proche de nous, comme un père qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Merci pour ce vin qui réjouit le cœur de tous les humains, pour cette coupe qui est le signe de l'alliance nouvelle et éternelle, la communion à la mort et à la résurrection du Christ. Par l'alliance qu'il renouvelle sans cesse, Jésus fait couler en nous sa vie comme un sang nouveau, comme un vin de fête, un vin de joie, pour que notre vie devienne semblable à la sienne dans l'espérance et l'amour. Je t'aime, nous dit Dieu, et je t'accueille tel que tu es. Prends, mange et bois, et poursuis l'œuvre que j'ai commencée en toi. Amen. Voilà ce repas de communion auquel nous sommes tous invités, nous sort de nos isolements et nous unit tous en un même corps, une même foi, dans un même amour, une même espérance en Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. J'aimerais inviter encore deux personnes pour nous aider dans la distribution de la scène. Est-ce qu'éventuellement Salomé et Pauline, vous nous rejoindriez? Merci. Je rappelle qu'il y a du jus de raisin au centre des plateaux pour ceux qui le désirent. Et je passerai au milieu de vous avec une coupe pour ceux qui désirent boire simplement la coupe. Merci de lever la main. J'aimerais encore vous inviter à rester dans cette présence de Dieu. Et si quelqu'un a à cœur une parole, une prière, qu'il n'hésite pas à la partager. C'est nourri de ce pain et de ce vin, signe de ta présence, signe de ta préoccupation, de ton souci pour chacun d'entre nous, que nous voulons continuer notre route. Seigneur, nous désirons marcher ensemble avec ton esprit pour être témoins de tes promesses, de ce royaume qui vient, de pouvoir faire des œuvres de foi et d'amour, comme signe de ton amour pour ce monde. Rassemble-nous, Seigneur, bénis-nous ensemble, fortifie-nous ensemble, envoie-nous ensemble, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons poursuivre par un temps d'offrande, et nous voulons chanter pendant ce temps, le 821, règne en moi. Que nous puissions laisser Dieu régner en nous. Voilà, tout se termine bien. Les paniers sont là, je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes. Et c'est vrai que nous ne voulons pas nous plaindre, même s'il y a parfois raison de nous plaindre, mais nous voulons aussi regarder avec reconnaissance tout ce au quoi tu pourvois jour après jour. Nous te prions pour que nous ayons des cœurs simples, Seigneur, dans ce monde de consommation. Nous devons et nous sommes poussés à réfléchir à d'autres manières de vivre et nous te prions pour un cœur qui te ressemble, un cœur simple où nous puissions avoir la joie de donner aussi peut-être parfois le peu que nous avons pour qu'il y ait un partage dans ce monde. Bénis cette offrande afin qu'elle porte du fruit là où elle va être distribuée. Merci pour tous les ministères qui œuvrent au milieu de nous et qui sont aussi rétribués par cet argent. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de notre culte. Encore quelques annonces. Merci de pouvoir projeter les annonces. Voilà. Voilà, comme ça je les verrai aussi. Donc aujourd'hui... c'est le jour de la kermesse œcuménique de Mérin, encore toute la journée, et nous invitons à faire un saut au forum Mérin Cité pour effectivement aider et voir tout ce qu'il y a dans cette kermesse. On a besoin d'aide à partir de 18h pour le démontage de différents stands que nous tenons. Il y a notamment un stand de librairie et un stand en faveur des enfants. Passez les voir et puis si vous avez le temps, aidez à les démonter. Il y avait pas mal de choses aujourd'hui, dont notamment aussi la journée de la FRE, notre fédération d'église à Yverdon. Je ne sais pas s'il y a... Oui, tout à fait. Voilà, cette journée dure encore bien tout l'après-midi. Si vous avez à cœur d'aller à Yverdon cet après-midi pour voir grand, voir loin, voir autrement, n'hésitez pas. Cela explique aussi pourquoi nous sommes peut-être un tout petit peu moins nombreux, quoique des personnes sont déjà soit à la kermesse, soit à Yverdon. Il y a aussi un culte spécial au CEPOM en lien avec la kermesse aussi, et des délégués nous y représentent. Voilà, annonce suivante, du 9 au 12 novembre. Il y a une action des GBU à Genève, 4 jours pour découvrir ou faire connaître des aspects de la vie chrétienne en lien avec la vie sur le campus de Genève. Des conférences de qualité pour mener à bien une réflexion sur différentes thématiques. Pour ceux et celles qui sont intéressés, il y a des papillons disponibles au foyer. Voilà, je pense qu'on va passer effectivement à l'annonce suivante, mercredi... mardi 10, donc c'est peut-être... Voilà. Peut-être juste la dia suivante. Donc une personne pour... Voilà, merci donc de vous annoncer à Claire-Lise si vous avez cette disponibilité, cette envie pour ce service. Mercredi 11 novembre, confection des paquets de Noël. Je vois que tu t'es avancée. Si tu veux.
J'ai quelque chose à dire sur ce sujet. Bonjour à toutes et à tous. Alors concernant notre action au paquet de Noël, j'ai quelques petits rappels à vous faire. Tout d'abord, que celle-ci touche déjà à sa fin. En effet, donc dimanche prochain, 15 novembre, sera le dernier dimanche où vous pourrez apporter vos dons. Et pour les personnes qui désirent faire un paquet chez eux, tout confectionné à la maison, donc elles pourront l'apporter, dernier délai, mercredi 18 novembre, entre 14h et 16h30. Et à ce propos, je voudrais rappeler à ces personnes qui font un paquet chez elles qu'il faut vraiment que tous les éléments qui constituent le paquet soient présents, c'est-à-dire des biscuits, du chocolat, tout ça, donc les friandises, par exemple, pour les enfants, et non pas que vous, par exemple, que vous leur offriez en vous disant je vais offrir un sac d'école, c'est un beau paquet, je mets quelques bonbons dedans, et puis ce sera tout. C'est pas possible, il faut vraiment que tout soit, tout ce que vous avez donc derrière vos feuilles soit présent dans le paquet. Voilà. Et puis, notamment concernant donc les derniers dons, je voudrais vous mentionner qu'il nous manque du sucre, du riz, du shampoing, café, thé et brosse à dents. C'est ce qui manque très souvent pour compléter en plus nos paquets à la fin. Aussi concernant les jouets, il faudrait que ceux-ci soient, si possible, en bon état et complets. Donc, si vous pouvez contrôler avant de les mettre dans le paquet. Et contrôler également, j'allais oublier, les dates de péremption de ce que vous apportez. La farine, le riz, tout ça. Bien contrôler les biscuits. Et puis, j'avais encore quelque chose à dire. Pour les personnes âgées qui ne peuvent porter de lourds fardeaux, c'est toujours très compliqué. Donc, vous avez à disposition, si vous voulez, une crousie qui est disposée sur la table du fond. Voilà. Et avec cet argent, nous compléterons justement les derniers paquets de Noël. Voilà, j'ai terminé. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez déjà apporté.
Merci. Voilà, je rappelle encore vendredi 13 novembre, notre colloque à 20h15, un moment important aussi dans la vie de l'Église. Merci d'être disponible et présent pour cela. Et enfin, le samedi 14 novembre, rappelle la journée masculine. Vous pouvez bien sûr vous renseigner auprès du papillon, en tout cas prendre le papillon, parce qu'il aura peut-être de la peine à vous parler, mais prendre le papillon, il est à disposition à l'extérieur. Et surtout, contactez Claude Parnigonier si vous avez des questions ou pour éventuellement vous arranger pour le déplacement à cette journée masculine. Voilà, je crois que nous avons fait le tour des annonces. Voilà, s'il n'y a pas autre chose, merci Sylvain pour la bénédiction. Je vous invite à vous lever.
Je vais d'abord relire un verset que j'avais cité qui est dans Psaume 43. Verset 5. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et donc, que Dieu nous fortifie pendant cette semaine, qu'il nous accompagne avec sa paix et son amour. Amen. Et bon dimanche.